ma disposition d'esprit. Une fois en situation, les participants ont décrit leur réaction à une telle humeur en se fondant sur des énoncés comme « Quand je me sens comme ça, je sors de mes gonds plus facilement et je suis vite agacé. Quand je me sens comme ça, je ressasse ce qui va mal en ce moment, je gamberge sur la vie que j'aurais si certaines choses avaient été différentes. » Ou encore « Quand je me sens comme ça, mon pessimisme prend le dessus dans tous les domaines. » Suivant la bonne vieille tradition du test de psychologie, les participants pouvaient rendre compte de leur réaction à l'aide des réponses suivantes. Non, jamais, rarement, parfois, souvent, mais oui, c'est tout à fait ça. Les différentes réponses fournissant de 0 à 4 points. Avant de commencer le traitement à base de bactéries, les participants comptabilisaient en moyenne 43 points sur un total de 136. Ils se trouvaient ainsi dans une moyenne saine et leur réaction ne révélait pas de tendance particulière au ressassement, à la colère ou au pessimisme. Pendant 4 semaines, les participants ont ensuite avalé chaque jour un mélange de bactéries. Ouvrez la bouche, une cuillerée de poudre, fermez la bouche, gloups, et voilà. À l'issue de cette période, les réponses du groupe témoin, dont les membres avaient consommé sans le savoir un simple placebo, n'avaient quasiment pas changé. Les réponses des participants ayant consommé le vrai cocktail de bactéries s'avéraient quant à elles meilleures, et ce principalement dans 2 domaines, la colère et le ressassement, la progression se chiffrant à environ 10%. Autrement dit, pour la moitié des questions touchant à ces domaines, les réponses données avaient progressé d'un niveau. Ce n'est pas exactement l'effet qu'aurait la cocaïne ou un calmant assez fort, mais ce n'est pas non plus l'effet d'un placebo. Fort de tels résultats, nous nous approchons pas à pas de la question de fond. À quel point l'intestin influence-t-il notre humeur? Et pour aller plus loin, dans quel domaine de l'humeur peut-il apporter son concours? Stress. Alors que l'humeur prend forme dans différentes régions du système nerveux, le stress est plutôt l'état dans lequel celui-ci se trouve. Un système nerveux stressé est comparable à la corde tendue d'un arc. Prêt à toutes les éventualités, il réagit au moindre stimulus extérieur. C'est tout à fait l'état indiqué pour réussir un parcours d'obstacles ou sortir indemne d'une situation dangereuse au volant. Mais comme style de vie sur le long terme, ce mode de fonctionnement est plutôt coûteux. Un peu comme si on allait faire ses courses en monster truck au supermarché du coin. Nous savons que notre intestin fournit beaucoup d'énergie à notre cerveau pour permettre à ce dernier de venir à bout du stress. Se pourrait-il donc que notre ventre contribue aussi à réduire le sentiment de stress, comme qui dirait, dans son propre intérêt? Sur ce point, nous avons bien fait d'attendre la publication de nouveaux résultats, car la recherche montre désormais un tout autre visage. Les premières expériences menées sur l'être humain en étaient d'abord arrivées à la conclusion qu'un quotidien stressant, un examen angoissant, restait stressant ou angoissant pour les individus testés, quel que soit le type de gentils microbes qu'on leur faisait avaler pour le bien de leur intestin. Encore que les microbes pouvaient quand même contribuer à réduire les effets physiologiques du stress, c'est-à-dire la production d'hormones impliquées dans cet état, les maux de ventre nerveux, la nausée, la diarrhée ou la propension au rhume. À y regarder de plus près, l'une de ces études nous fournit cependant une indication intéressante. Parmi les bactéries testées, il en est une qui a également montré une influence sur la gravité du stress ressenti, mais seulement au sein d'un sous-groupe spécifique de participants, celui des petits dormeurs. Ceux dont les nuits étaient plus courtes à l'approche de l'examen étaient ainsi de plus en plus stressés au fil du temps. Un effet moins marqué chez les participants qui consommaient chaque jour la bactérie Bifidobacterium bifidum. Ces derniers étaient toujours stressés, mais un peu moins que leurs camarades qui ne dormaient pas beaucoup non plus. Dans cette étude, 2 autres espèces de bactéries ont également été testées, Lactobacillus helveticus et Bifidobacterium infantis. Mais leur effet n'a pas été le même. Pour les besoins de l'étude, on a réparti 581 étudiants en 4 groupes quelques semaines avant les examens. L'un des groupes avalait une pilule remplie de poudre sans effet, tandis que les autres testaient chacun une autre bactérie, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium infantis ou Bifidobacterium bifidum. Voilà qui était encourageant. Visiblement, cela valait la peine de continuer à explorer l'univers des microbes, puisqu'une bactérie se révélait avoir un effet que les autres n'avaient pas. Elle réduisait la sensation de stress. Peu après, D'autres nouvelles nous sont parvenues d'Irlande. Quelques-uns des chercheurs qui avaient aussi conduit l'expérience de la souris qui nage se lançaient désormais dans la recherche sur les sujets humains. Dans leurs études sur les souris, un bifidus spécifique, Bifidobacterium longum, 1714, s'était montré particulièrement efficace. Il entraînait une baisse des paramètres révélateurs du stress et permettait aux rongeurs de tirer plus vite des leçons de leurs expériences. Les chercheurs décidèrent donc de tester cette bactérie sur un petit groupe de sujets humains. Chaque jour, les participants à cette expérience devaient remplir un questionnaire en ligne sur leurs sentiments de stress. En outre, sur une période de 8 semaines, ils étaient invités à se rendre à 3 reprises dans un laboratoire pour mettre un casque bizarroïde sur la tête, plonger une main dans l'eau glacée, faire des exercices sur une tablette. Le drôle de casque permet de mesurer en temps réel l'activité des différentes régions du cerveau. Si l'on forçait notre partenaire à porter ce casque pendant qu'on lui raconte une journée au bureau, tout sauf passionnante, on pourrait voir son activité cérébrale diminuer peu à peu dans la région dédiée à l'écoute, tandis que dans la zone rêvasserie, c'est la fiesta. Plonger la main dans une eau horriblement froide est un test très efficace pour mesurer le stress. On note la durée pendant laquelle le sujet peut maintenir la main dans l'eau, et ce faisant, on lui colle régulièrement des cotons-tiges dans la bouche. Les cotons-tiges absorbent un peu de salive, et l'on peut alors déterminer la quantité d'hormones du stress qu'elle contient. Peu importe le nombre de fois qu'on répète le test, la réaction de stress sera toujours là. Face au froid, le système nerveux chargé de déclencher les signaux correspondants n'est pas du genre à s'accoutumer. Sans quoi, l'hiver passant, nous aurions de moins en moins la sensation de nous geler. À l'issue du test, une fois la main bien au chaud, les participants doivent encore répondre à quelques questions. Ce que les chercheurs cherchent ici à déterminer, c'est l'intensité de l'anxiété ressentie suite à une bonne dose d'hormones stressantes. Après consommation de bifidobactéries pendant 4 semaines, presque tous les paramètres avaient légèrement évolué. D'après les questionnaires en ligne, le stress quotidien ressenti par les participants était de 15% inférieur à celui du groupe placebo. Le plongeon dans l'eau froide déclenchait toujours la même réaction. Rien de surprenant, puisque l'eau était toujours aussi glacée. Mais le niveau total d'hormones du stress était moins important qu'avant et ces hormones n'entraînaient pas plus d'anxiété. Le casque à électrode et la tablette ont aussi eu leur mot à dire. Lors des exercices de mémorisation, le groupe consommateur de bactéries faisait désormais environ 2 à 5 fautes de moins qu'avant. Comparé au groupe placebo qui n'enregistrait qu'une à 3 fautes de moins, le résultat témoignait donc d'une amélioration. Et cet effet était aussi visible grâce au casque. Une région du cerveau que nous utilisons pour apprendre, celle-là même qui se trouve affaiblie par la maladie d'Alzheimer, était désormais plus active. Contrairement aux bactéries, le placebo s'avérait ici sans effet. On sait que l'intestin peut envoyer des signaux à notre cerveau, par exemple via des fibres nerveuses. Mais les chercheurs irlandais avaient aussi une autre explication. Les bactéries, avançait-il, pouvaient aussi avoir eu une influence bénéfique sur la mémoire en réduisant les niveaux des hormones du stress. Et voilà comment l'hippocampe, la partie du cerveau qui archive et met en réseau nos souvenirs, fourmille de récepteurs des hormones du stress. Dès qu'il détecte une grande quantité d'hormones, le cerveau réduit son activité dans cette zone spécifique. C'est logique. Quand on est poursuivi par un animal sauvage, mieux vaut ne pas dépenser d'énergie à mémoriser les plantes qui poussent dans les environs. En période de stress, nous n'avons Dieu que pour un nombre restreint de choses et faisons abstraction des autres, ce qui nous permet de concentrer notre attention sur le problème. C'est là une piste intéressante par bien des aspects. Pas seulement pour les fans de Bellongum 1714, mais aussi par exemple pour les patients souffrant de pathologies intestinales et dont les facultés de concentration baissent en période critique, ou encore pour les élèves que leur cerveau laisse en plan dès qu'ils ont à répondre à une question vache. Le plus important n'est peut-être pas toujours de savoir alors si le stress est signalé par l'intestin ou par le cerveau. Via le réseau nerveux et les messagers chimiques, tous deux sont en mesure de stimuler nos glandes surrénales, finalement responsables de la fabrication des hormones du stress. Et c'est ici que nous pouvons revenir à nos humeurs. Prenons par exemple les petits coups de moins bien de l'étude hollandaise. Vous vous souvenez, on a beau avoir une vie bien sympa, un jour ou l'autre, on finit toujours par s'y trouver confronté. Face à une humeur de ce type, si l'on se met alors à ressasser tous les problèmes possibles, on n'aura aucun mal à trouver dans notre monde moderne toute une batterie de choses sur lesquelles gamberger à l'envi. Et sur lesquelles, surtout, on n'a aucune influence. Quelque part dans le monde, un homme politique a proféré une énormité, dont on n'aurait rien su autrefois. Ailleurs, un avion s'est écrasé avec toute une équipe de football dont on n'aurait sinon jamais entendu parler. Quelqu'un nous présente en ligne une image bien lisse de sa vie, et nous nous comparons alors à quelque chose qu'en d'autres temps nous n'aurions jamais vu sous cette forme. À haute dose, le fait de gamberger sans cesse sur ce qu'il nous est impossible de changer peut déclencher un sentiment de stress. Sous l'effet des hormones alors libérées, nous réduisons encore davantage notre angle de vision. Résultat, lever le nez de nos problèmes est de plus en plus difficile. Malheureusement, c'est encore là un facteur qui renforce notre stress. La boucle est ainsi bouclée, et nous tournons en rond. Une stratégie utilisée par notre organisme plein de bonnes intentions se trouve détournée à mauvais escient, et nous nous enfonçons de plus en plus profondément dans le marasme des lamentations stressées. Au lieu d'observer notre environnement immédiat, de faire preuve de curiosité pour ce qui nous entoure, ou de nous consacrer à quelque chose qui nous fait du bien. Dépression. À l'heure actuelle, côté gamberge, colère ou stress, le bilan provisoire est donc le suivant. L'implication de l'intestin peut se chiffrer à 10-15%. L'intestin transmet à notre cerveau des informations sur notre univers intérieur, susceptibles d'avoir un effet inquiétant ou apaisant, selon le cas. Il pourrait donc favoriser notre dérapage vers certaines humeurs. Quant à savoir s'il pourrait aussi nous aider à sortir d'un état dépressif manifeste, la question n'est pas encore résolue. Les expériences pilotes qui ont été menées à ce jour sont déjà porteuses d'espoir. Une équipe de chercheurs irlandais a par exemple prélevé sur des patients atteints de dépression des bactéries intestinales qui ont ensuite été administrées à des rats. Pour cela, un simple contact entre l'homme et l'animal ne suffit pas. Les intestins doivent tout d'abord être rendus stériles, après quoi les bactéries sont administrées sous forme hautement concentrée. Suite à cette procédure, les rats ont développé un comportement dépressif qu'ils n'avaient pas auparavant. Les expériences ne portant que sur l'être humain n'en sont encore qu'à leur balbutiement. Dans ce contexte, l'un des outils communément utilisés par la recherche est le Beck's Depression Inventory Test, qui permet aux scientifiques de déterminer la gravité d'une dépression, ou de diagnostiquer une simple humeur passagère. Étrangement, les 21 questions de ce test ne cherchent pas seulement à savoir si nous nous sentons tristes ou mécontents. Il s'agit aussi de dégager une tendance à moins bien dormir, des difficultés à prendre des décisions, une inquiétude accrue pour notre santé ou un désintérêt en matière de sexualité, par rapport à des périodes antérieures. Au fond, ce que l'on questionne ainsi de manière indirecte, ce sont les différents systèmes hormonaux de notre organisme. Pour l'heure, seules deux études ont testé en situation contrôlée des bactéries probiotiques pour lutter contre la dépression. Dans la première étude, datant de 2015, la combinaison de deux bactéries, Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium bifidum, administrées aux patients en complément d'un traitement médicamenteux, a entraîné une amélioration de leur état. Cet effet s'avérant toutefois plutôt restreint dès lors qu'on faisait abstraction dans les résultats de tous les éléments perturbateurs possibles. Dans une autre étude de 2017, deux bactéries, Lactobacillus helveticus et Bifidobacterium longum, se sont révélées sans effet sur un état dépressif. Ce que les chercheurs ont cependant pu mettre en évidence, c'est une corrélation entre l'efficacité des bactéries et le taux de vitamine D. Les microbes entraînaient ainsi une amélioration de l'humeur chez les participants dont le niveau de vitamine D était suffisamment élevé. Cependant, le nombre de participants à l'expérience est trop faible pour qu'on puisse déjà en déduire un constat scientifique. Avec ces deux expériences, la recherche fait ses premiers pas sur une nouvelle voie. En poursuivant notre chemin, nous allons pouvoir reconnaître peu à peu la direction que nous suivons. Y a-t-il une possibilité d'agir plus tôt contre la dépression grâce à notre intestin? Les bactéries pourraient-elles tenir lieu de traitements complémentaires en plus des médicaments, des thérapies et d'une modification du mode de vie? Ou encore, la meilleure façon de traiter la dépression serait-elle de s'attaquer simultanément aux différentes causes possibles, en influant sur l'intestin, via les bactéries et l'alimentation, sur le cerveau, avec des médicaments et des thérapies, ainsi que sur d'autres déclencheurs possibles, comme par exemple les taux de vitamines, l'activité sportive ou les conditions de travail. En outre, on peut imaginer qu'il existe différents types de dépression, certaines étant davantage régies par la partie ventre et réagissant donc mieux à un traitement de cette zone. Ce cheminement n'a pas pour objectif la découverte d'une super bactérie que nous avalerions tous chaque jour. Et il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que nous soyons toujours gais comme des pinsons. Non, l'objectif est plutôt d'acquérir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre organisme. Mieux connaître cette vie intérieure, cela implique aussi qu'en cas de stress ou d'humeur noire, on ne pensera pas uniquement à des paramètres extérieurs. On ira aussi voir du côté de ce qui se passe en nous. L'avenir nous permettra peut-être de découvrir de super microbes capables de nous donner un coup de pouce dans les moments difficiles, et c'est tant mieux. Mais pendant que les chercheurs continuent de sonder le brouillard qui nous entoure, nous devrions surtout mettre à profit ce que nous avons déjà. Il y a en nous et autour de nous de gentils microbes, et nous disposons d'ores et déjà d'un savoir ancestral pour leur donner plus de pouvoir. Une dose bienfaisante d'acide. Il n'est sûrement pas nécessaire de comprendre tous les désirs et toutes les envies qui nous animent. Vous êtes parfois d'humeur à vous rouler par terre dans votre salon ? Ma foi, il ne tient qu'à vous. Pour ce qui est de nos envies alimentaires, en revanche, cela vaut la peine de s'interroger sur le pourquoi du comment. Prenons un verre d'eau et ajoutons-y la quantité de sucre que contient un verre de Coca-Cola. De plein gré, personne ou presque n'accepterait de boire cette mixture jusqu'à la dernière goutte. Nous serions sans doute même écœurés, rien qu'à l'idée de nous resservir, car notre corps est malin. Le résultat de l'expérience n'est plus le même si nous la modifions légèrement. Et même plusieurs millions d'années d'évolution ne nous suffisent pas ici à déjouer le piège. Ajoutons un peu d'acide citrique dans l'eau sucrée, l'équivalent du gaz carbonique et de l'acide phosphorique dans le Coca-Cola. Alors, miam ! Délicieux. Nous vidons le verre d'un trait et notre cerveau applaudit. Youpi ! Pour notre organisme, l'acidité est caractéristique des fruits et des bonnes bactéries, comme les lactobacilles du yaourt. Quand elle est modérée et combinée à d'autres nutriments, notre goût nous dit « c'est tout bon ». Pour concocter un bon petit repas, nous avons donc tendance à intégrer à nos recettes une composante acide, de la tomate dans une sauce, un peu de citron sur le poisson, du vin pour déglacer les oignons. Le recours à cette dose d'acide est tout à fait passionnant pour les fans des microbes. La question qui pourrait par exemple se poser est la suivante. Notre envie d'acidité est-elle le signe que nous aspirons à davantage de bonnes bactéries? Au cours des derniers millénaires, quand l'être humain avait envie d'une petite touche d'acidité, c'était en général les bons microbes qui la lui fournissaient. Nos ancêtres faisaient fermenter du chou blanc pour obtenir de la choucroute, buvaient du vin plutôt que de l'eau, souvent dangereusement contaminée au Moyen-Âge. Ils faisaient encore leur pain avec du vrai levain, qui donne une acidité particulière à la pâte, et fabriquaient leur propre lait caillé et leur yaourt. Agrumes et limonades acidulées n'étaient pas à l'ordre du jour. Partant de cette réflexion, tentons une petite expérience personnelle. Vive la choucroute maison ! Ou comment se faire du bien avec des légumes fermentés. La fermentation est le processus par lequel des bactéries prédigèrent, pour ainsi dire, les aliments. Les mauvaises bactéries, ou les champignons, ne donneraient pas lieu à une fermentation vraiment sympa. Ils gâteraient les aliments et les rendraient impropres à la consommation. Les bonnes bactéries, en revanche, modifient les aliments de sorte qu'ils sont ensuite plus faciles à digérer pour nous. Elles sont plus douées que nos enzymes digestives pour diviser les cellules de chou blanc ou d'autres cellules végétales. Elles facilitent donc la tâche à notre intestin et en plus, elles produisent des vitamines. Dans le même temps, elles fabriquent des acides qui éliminent les bactéries dangereuses, ce qui permet de conserver nos aliments. Or, il y a autour de nous tout un tas de bonnes bactéries qui s'ennuient. Pourquoi ne pas leur confier sans attendre une mission en leur donnant de quoi se mettre sous la dent ? Nous allons ainsi leur permettre de se multiplier et leur accorder plus de pouvoir. Petit 1. Le grand classique, c'est le chou blanc. Mais on peut s'essayer à presque tous les légumes qui se mangent aussi crus, comme les carottes ou les concombres. Les concombres aigres étant la discipline reine, car ils ne restent croquants qu'à l'issue de processus bien particuliers. Sur les feuilles de choux ou la peau des carottes se trouve déjà un certain nombre de bonnes bactéries, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter d'autres. Et puisqu'on est là pour se faire du bien, autant mettre le cap sur les rayons des fruits et légumes non traités. Petit 2. Selon le temps de fermentation souhaité, râper ou couper les légumes très fins égale une semaine de fermentation, ou les laisser entiers égale 4 à 6 semaines de fermentation. Attention ! La plus grande propreté est de rigueur si l'on veut éviter que les bactéries qui traînent dans la cuisine ne s'invitent à la fête de la choucroute. Petit 3. Comptez 10 à 15 grammes de sel pour 1 kg de légumes. Le sel ralentit la croissance des bactéries et empêche ainsi la prolifération de vilains germes avant même que les bonnes bactéries n'aient commencé leur œuvre. Bien doser le sel est important. S'il y en a trop, il ne se passera rien. Et s'il n'y en a pas assez, le résultat risque de tourner et d'avoir un drôle de goût. Le sel de mer est tout indiqué, tandis que le sel iodé est absolument tabou. L'iode inhiberait trop les bactéries. Petit 4. Une fois salé, malaxez les légumes avec l'ardeur qui se doit. C'est ce qui va permettre de répartir le sel et de briser en partie les parois cellulaires particulièrement rigides. L'eau ainsi extraite des cellules de choux pourra ensuite être utilisée pour la macération. Petit 5. Versez le tout dans un bocal qui puisse être fermé hermétiquement et tassé. L'essentiel, c'est que les légumes soient bien recouverts d'eau. L'oxygène perturbe en effet les bactéries responsables de la fermentation et tout ce qui dépasse risque alors de moisir. Si le chou ou les carottes n'ont pas donné suffisamment d'eau pour recouvrir toute la préparation, il suffit d'ajouter un peu d'eau salée, une bonne cuillère à café de sel pour 250 ml d'eau. Un poids posé sur les légumes permettra de mater ceux qui ont toujours la tête hors de l'eau. Il existe même des poids spécialement prévus à cet effet, mais une simple pierre qu'on aura fait bouillir au préalable remplit aussi bien cet office. À ce stade de l'opération, tous les goûts sont permis et on peut par exemple ajouter dans le bocal des graines de cumin, de la betterave ou, pour les carottes, une pointe de gingembre. Si vous utilisez un pot en verre, posez le joint rouge entre le couvercle et le pot avant de le fermer. Pendant la fermentation, on peut parfois observer la formation de petites bulles qui remontent à la surface du bocal. Autrefois, dans certaines cultures, faute de connaissances sur les bactéries, on dansait autour des pots de fermentation pour montrer aux légumes comment swinguer. Ailleurs, au contraire, on ne touchait plus à rien, de peur de déranger les dieux à l'œuvre. Une fois le temps de fermentation écoulé, il faut goûter. L'acidité doit être là, mais sans arrière-goût alcoolisé ni viscosité. La préparation peut alors être conservée au réfrigérateur. Pour la choucroute vendue en supermarché, une étape supplémentaire est requise. Elle est bouillie pour que les bactéries cessent de fermenter, sans quoi l'emballage plastique n'en finirait pas de gonfler et le goût serait de plus en plus acide. L'inconvénient ? En faisant bouillir la préparation, on éradique non seulement les bactéries, mais aussi une partie de la vitamine C qu'elles produisent. Voilà pourquoi les fabricants ajoutent souvent de la vitamine C en poudre après la cuisson. Grâce aux acides, la fermentation est la méthode la plus sûre pour conserver naturellement la nourriture. Alors que les conserves et les bocaux stérilisés ont déjà entraîné des maladies du fait de bactéries résistantes à la chaleur, il n'existe à l'heure actuelle aucun cas déclaré de maladie due à l'absorption de mets fermentés. Et voilà, il vous suffit à présent d'ajouter une ou deux cuillerées de votre choucroute maison ou de nos carottes fermentées, à tout ce qui vous plaira. On peut en mettre dans la salade à la place du vinaigre, dans un hamburger pour remplacer les cornichons, dans les soupes juste avant de servir, les poêlés de légumes, les currys, les risottos ou, pour les aventuriers du goût, dans le muesli du matin avec du miel. Suivez ce régime un certain temps et vous verrez si l'envie de déguster cette pointe d'acidité spécifique vous vient de plus en plus fréquemment. Après quelques tentatives, si votre appétit vous dit « encore », c'est lui le chef. Remerciements. Ce livre ne serait pas sans ma sœur Jill. Sans ton esprit libre, rationnel et curieux, je serais souvent tombée en panne dans ce monde où l'obéissance et la conformité sont plus simples que le courage et la volonté de faire des erreurs productives. Même si tu es toujours très occupé, tu as toujours été là pour revoir les textes avec moi et m'apporter de nouvelles idées. Tu m'as appris à travailler de façon créative. Quand je vais mal, je me rappelle que nous sommes faites du même bois, deux mêmes crayons utilisés différemment. Je remercie Ambrosius. Il m'a prise sous son aile pour me préserver de trop de travail. Je remercie ma famille et mon parrain. Il m'entoure comme une forêt entoure un arbre et reste bien ancré dans la terre, même quand la tempête survient. Je remercie Jiwon. Elle m'a si souvent nourrie pendant que je travaillais à ce livre, de ses petits plats et de ses attentions. Je remercie Anne-Claire et Anne. Elles m'ont aidé à résoudre les questions les plus ardues. Merci à Michaela et Bettina, dont l'esprit incisif a donné naissance à ce projet. Sans études, je n'aurais pas eu les connaissances requises. Aussi me faut-il remercier tous mes bons professeurs ainsi que l'Allemagne qui finance mon université. À tous ceux qui ont œuvré pour ce livre, les attachés de presse, les représentants de la maison d'édition, les fabricants, les graphistes, le marketing, les correcteurs, les libraires, les facteurs, et jusqu'à celui ou celle qui lit ces mots. Merci.
Merci, et à bientôt chez Audible.